France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Au programme, aujourd'hui, la seconde partie du deuxième chapitre de la série d'émissions que le chef d'orchestre et producteur Alain Paris avait consacré à Antonín Dvořák sur notre antenne en 2002. En compagnie du musicologue Guy Erismann, grand connaisseur de la vie et de l'œuvre du compositeur tchèque, Alain Paris avait choisi de se pencher sur la vie et l'œuvre de Dvořák à son retour des États-Unis, c'est-à-dire au printemps 1895. Au cours de cette émission, vous pourrez écouter l'intégralité de son concerto pour violoncelle en si mineur. Mais pour débuter, voici l'adagio de son 13e quatuor à cordes, l'opus 106 d'Antonín Dvořák, interprété par le quatuor Prajak.
Un extrait du 13e quatuor à cordes, l'opus 106 de Dvorak. C'était le mouvement lent, l'adagio malon troppo, et c'est peut-être là, Guy Eisman, où la sincérité, le véritable Dvorak transparaît le mieux. C'est un enregistrement que nous devons aux membres du quatuor Prajak, un quatuor tchèque de la dernière génération. Quand je dis la sensibilité de Dvorak transparaît le mieux, je vous choque ou je suis dans le vrai?
Non, c'est très vrai. C'est très vrai, oui. Pourquoi serait-elle absente ?
Oui, mais bon, on pourrait dire, il y a ce côté slave qui peut-être en met un petit peu trop. Il y a, souvent, dans les mouvements lents,
Oui et non. C'est-à-dire que, quand même, le Dvorak, que l'on a connu, très bavard dans sa jeunesse, qui ne se maîtrisait pas, qui ne maîtrisait pas sa facilité thématique, eh bien, il va quand même s'agir. Il va... Mais quand même, dans les mouvements lents, il a tendance à s'étendre, mais ce n'est pas du remplissage.
C'est toujours d'ailleurs le mouvement le plus
vaste. Absolument, c'est le plus vaste.
On va retrouver ça presque de la même façon dans le concerto pour violoncelle. Alors là, bon, c'est avec la symphonie du Nouveau Monde, l'ouverture carnaval, deux, trois autres œuvres comme ça, le best-of, si vous voulez, de Dvorak. D'abord, tous les violoncellistes se sont emparés de ce concerto qui est devenu l'un des chevaux de bataille. Il y a une histoire, il y a une commande derrière. Comment ça se présente ?
Non, il n'y a pas de commande. Il l'a composé pour son ami Anus Vian.
Vian qui était le violoncelliste du quatuor bohémien.
Absolument. Et ce n'est pas Vian qui va le créer. Il l'a composé pour Vian et au moment de le programmer, Vian n'était pas libre. Enfin, c'est l'explication que l'on a donné, et c'est Léo Stern qui va le créer, et créer à Londres, en Angleterre, encore une fois.
Ah oui.
Londres est vraiment le pays où se cristallise la gloire. La gloire, c'est étonnant. On pourra peut-être faire un résumé dans une autre émission de tout ce qui s'est passé en Angleterre par rapport à Dvorak. Toutes les commandes, toutes les créations, toutes les premières. Et ça, c'était une des dernières créations de Dvorak en Angleterre et l'occasion de son 9e voyage. 9e et dernier voyage en, je crois, 1896.
Alors, le concerto pour violoncelle de Dvorak a des dimensions qui sont beaucoup plus développées que toutes celles des concertos pour violoncelle précédents, quand on regarde simplement par rapport au concerto de Schumann, qui est l'exemple du concerto pour violoncelle de l'époque romantique, qui a marqué son temps, ou par rapport au concerto de la fin du XVIIIe siècle. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé Dvorak à aller sur un registre aussi vaste?
Ben, je crois que c'est un grand sentimental. Il avait donc cette nostalgie de la bohème. C'était encore en Amérique, là.
Oui, d'accord. Oui.
C'était la nostalgie de la bohème et c'était aussi les réminiscences de jeunesse et notamment de ses premières amours. Dvorak était un homme rangé, pieux, qui n'a probablement jamais trompé sa femme, qui était absolument rigoureux. Mais il avait, dans le fond du cœur, l'amour de Josefina. Josefina, c'était sa belle-sœur. Il était amoureux d'elle alors qu'elle était... C'était la fille d'un joaillier, d'un bijoutier. Et elle l'a pris de haut, peut-être. Il était encore un tout petit compositeur inconnu. Elle n'en a pas voulu. Il a épousé sa sœur, Anna, qui était plus jeune. Il l'épousait quelques années plus tard. Mais le souvenir de Josefina, qui est devenue la comtesse Kaunitz, était resté dans sa mémoire comme un regret indélébile, qui s'est transformé en tendresse, en douceur, en culte du souvenir. Par exemple, il avait composé pour elle, en 65, un recueil de 18 mélodies qui s'appelait Les Cyprès. Et il va traîner ces thèmes-là toute sa vie, et puis il va aussi introduire ce si beau thème dans le concerto pour violoncelle, qui était un thème qu'aimait Josefina. Elle meurt au moment où il finit le concerto.
Le thème du corps dans le premier mouvement.
Oui.
Et ça, c'est une chose qui est très frappante, parce que on disait mouvement lent important. C'est vrai que le mouvement lent, c'est-à-dire le mouvement central, est important, mais on a l'impression que dans les deux autres mouvements, on a des mini-mouvements lents qui sont intégrés.
Absolument, mais je crois que c'est Josefina.
Oui, à chaque fois.
Ah oui.
Thank you.
Voilà cet extrait du concerto pour violoncelle de Dvorak en si mineur, avant d'entendre intégralement cette œuvre, ce merveilleux thème. Et on voit d'ailleurs comment Dvorak, avec une habileté extraordinaire, parvient à émerger de ce moment de nostalgie, de rêverie. Tout d'un coup, il fait gronder son orchestre. Oh, pas pour longtemps! Et puis, à l'endroit où nous venons de nous arrêter, mais nous allons y revenir, le violoncelle va entrer, va prendre la parole avec une force absolument exceptionnelle. Les interprètes dans l'enregistrement que nous allons entendre, un enregistrement 100% tchèque, Angelika Maj au violoncelle avec la Philharmonie tchèque dirigée par Václav Neumann.
trésor de France Musique.
Thank you. Thank you.
Le concerto pour violoncelle en si mineur opus 104 d'Antonín Dvořák, nous écoutions Angelika May et l'orchestre philharmonique tchèque sous la direction de Václav Neumann. Tout à l'heure, je vous disais une version 100% tchèque comprenez enregistrée à Prague parce que Angelika May est une violoncelliste allemande, les autres protagonistes bien entendu tchèques. Alors, vous pourrez lire aussi parfois, notamment sur le site internet de Papier à Musique, que ce concerto porte le numéro 2. Oui, parce que récemment, on a découvert un premier concerto pour violoncelle de Genèse de Dvorak qui a logiquement pris le numéro 1. Donc celui-ci s'est trouvé affublé d'un numéro. C'est un usage qui n'est pas encore généralisé, mais ceci pour éviter toute confusion. Le concerto de Dvorak que vous venez d'entendre, eh bien, c'est le second. Et alors, quelques petites précisions en ce qui concerne les événements tchèques, cette saison musicale et artistique tchèque en France qui a commencé il y a quelques semaines et qui se déroulera jusqu'à la fin de l'année 2002 sous le titre Bohemia Magica. Mais il y a beaucoup de concerts avec des formations tchèques. Il y a également de la musique tchèque jouée par des artistes français. Croisement de cultures pour le meilleur d'ailleurs. Et puis juste peut-être un événement à partir du 19 juin, Rusalka de Dvorak à l'Opéra National de Paris, Bastille, diffusion sur France Musique le 13 juillet. Nous en reparlerons bien sûr.
Vous avez pu écouter aujourd'hui la seconde partie du chapitre 2 de la série qu'Alain Paris avait consacrée à Dvorak à son retour des États-Unis, une émission diffusée en 2002 avec pour invité le musicologue et spécialiste de la musique tchèque Guy Erisman. Cette archive rejoint la collection des trésors de France Musique, où vous pourrez retrouver aussi le premier chapitre de cette série. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.